N'oubliez pas votre enfant. Écrivez-lui de temps en temps, de temps en temps, de temps en temps. Écrivez-lui de temps en temps. Envoyez-lui de l'argent. Adieu donc, mon tendre cœur, vous consolerez ma sœur. Adieu donc, mon tendre cœur, vous consolerez ma sœur. Vous y direz que fanfan, oui que fanfan, oui que fanfan. Vous y direz que fanfan, il est mort en combattant. Ce qu'on fait cette chanson, c'était trois jolis garçons. Ce qu'on fait cette chanson, c'était trois jolis garçons qui étaient faits de bas et qui astre son soldat.
Ce journal est un torchon nul propageant des nouvelles fausses. Des histoires à dormir debout, la maquette en est défoncée. Les photos glissent à l'envers, on y vante à toutes les sauces. Des flots d'improbables détails et des inventions éhontées. Tu liras par hasard de mes nouvelles un jour dans cette feuille. L'aventure d'un chef de bande emmenant son armée du deuil sur un lac de cendres dans l'Alpe, et son cheval était un aigle. Blanc comme la montagne dont l'aile est derrière ta maison. Il a dit-on pour une femme jadis perdu la raison. Des filles mangent dans sa main lorsqu'il les invite à sa table. Elles emportent dans leur nid des morceaux sanglants de chansons. Et la nuit, estriée par son mugissement épouvantable, c'était moi et ce sera moi bien sûr. Ce soudard il portait à la hanche une mitraillette, une stène datant des glières. Son manteau couleur des mille douleurs descendait jusqu'à terre. Inventons n'importe quoi, oui cela t'indiffère, je sais. Aimes-tu ces mots sarcastiques, ces corbeaux devant ta porte? Préfères-tu ce décor-là à notre ancien lit d'oraison? Je viens, mes sourcils sont des blés brûlés, une enfant morte. Joue dans mes yeux, un con de journaliste pose des questions. Est-il vrai que...
Tu es fou enfermé, raison déconnecté. On t'attache à ton lit. Tu hurles dans ton délire. Tu ne peux plus agir. C'est cela la médecine. Des couloirs trop blancs. Bois ton médicament. Tu es dans quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra ton angoisse. Disparaît ce qui se passe. Voilà la traveneuse. Ta solution aqueuse. Si c'est ça le médecine, je préfère la guillotine. Si c'est ça le médecine, je préfère la guillotine. Si c'est ça le médecine, je préfère la guillotine.
Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme pratiquement tous les mercredis matins de 9h30 à 10h30. Et critique de la psychiatrie, et aujourd'hui on va parler de la casse. La casse, qu'est-ce que c'est? C'est une c'est une caisse autonome de soins et santé, mentale et physique, localisée en Bretagne. C'était une espèce de, en fait, une espèce de tontine, de peau qui sert à soutenir les plus précaires dans leurs besoins de soins. Cette caisse vise à soutenir financièrement les personnes précaires au sens large dans leur parcours de soins, dentistes, kinés, dermatologues, psychologues, psychiatres, orthoptistes, gynécologues. Nous avons fait le choix, disent-ils, de garder une certaine vigilance par rapport aux pratiques de soins non conventionnels qui ne collent pas aux conventions de ce que l'on estime comme nécessaire pour être considéré comme de la médecine, en particulier lorsque celle-ci représente des risques de retard de prise en charge sérieuse du problème, d'éloignement de la médecine, d'emprise ou de dérive sectaire. En dehors de toute approche dogmatique et sans a priori théorique, nous privilégierons les pratiques dont l'efficacité des résultats est avérée par suffisamment d'études sérieuses. En ce sens, pour certaines demandes, on pourra être amené à vous demander plus d'infos sur les types de soins que vous désirez que l'on finance. Parallèlement, nous souhaiterions constituer une liste de praticiens et de praticiennes et réseaux d'aide fiables, toujours ouverts à vos propositions. Nous sommes une caisse non subventionnée et avons donc toujours besoin de votre soutien pour exister. N'hésitez pas à nous aider financièrement. Voilà, telle est la présentation par elle-même de cette caisse autonome de soutien. Donc une espèce de sécurité sociale locale. Et donc nous allons entendre tout à l'heure un podcast qu'ils ont... l'épisode 1 d'un podcast... notre rapport aux soins, les précaires, la casse, caisse autonome en santé, en soins. Et voilà. Mais auparavant, avant le son que je vous propose, eh bien, des annonces. On va faire trois annonces. Une annonce du CRPA, le Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie. L'annonce d'une conférence débat samedi 7 mars, ce samedi, 14h-18h, et mercredi 11 mars. Donc deux sessions, 14h-18h également. Et le thème, c'est l'euthanasie démocratiquement ouverte aux psychiatrisés, discutons-en. Cette réunion se tiendra à la GECA, 177 rue de Charonne, 75-011 Paris, métro Alexandre Dumas, ligne de métro 2, Nation, Porte Dauphine. Inscription obligatoire, en présence ou par visioconférence. Nous renvoyez le formulaire d'inscription. Vous pouvez aussi écrire donc pour contacter. Alors c'est. Je vous dirai ça plus tard. Je n'ai pas ça sous les yeux pour le moment. Alors, la proposition de loi sur l'aide à mourir ou euthanasie ou suicide assisté est adoptée ce 25 février 2026. Par un vote public en deuxième lecture par l'Assemblée nationale après avoir été rejeté par le Sénat en première lecture le 28 janvier. Une deuxième lecture aura lieu par le Sénat après les élections municipales, se concluant par un nouveau rejet. Une troisième lecture interviendra par l'Assemblée nationale au début de l'été, avec une promulgation au plus tard à la rentrée 2026. Malgré de nombreuses objections soulevées, notamment par des porte-paroles du handicap, ainsi que par des représentants de la psychiatrie, dont notre propre opposition, a écrit le CRPA dans une tribune du 12 mai 2025, les parlementaires de gauche, alliés aux parlementaires des groupes gouvernementaux, sauf exception, ont validé ce texte. Or, cette future législation ouvre une porte pour une admission qui ne pourra qu'être élargie après quelques années d'exercice aux personnes laissées pour compte, subissant une atteinte psychiatrique, aux indésirables, aux personnes trop pauvres pour pouvoir accéder à des prises en charge de qualité. Ces personnes, à l'instar de ce qui se passe en Belgique ou au Canada, et singulièrement au Québec, auront une orientation par défaut vers une demande, entre guillemets, volontaire d'euthanasie. Quelques députés de gauche se sont inscrits contre une telle perspective, ainsi du député PCF Stéphane Peu, à l'instar de la position courageuse qu'avait prise l'ancien député PCF Pierre Dharréville en juin 2024, avant la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le président de la République au soir des élections européennes le 9 juin 2024. Les parlementaires qui ont argumenté contre l'adoption de cette légalisation de l'euthanasie sont pour l'essentiel des élus de droite et d'extrême droite, au sens de leur position géographique dans l'hémicycle, ainsi qu'une partie du groupe centriste indépendant, voire la position argumentée par M. Charles de Courson, centriste indépendant. Une alerte est en place sur un risque d'élimination, entre guillemets, volontaire, dans les rangs des personnes connaissant ou ayant connu une institutionnalisation psychiatrique. Nous proposons d'en discuter. Nous avons réservé deux dates, le samedi 7 mars et le mercredi 11 mars après-midi, de sorte que les personnes qui ne sont pas disponibles un samedi puissent participer le mercredi suivant. Le docteur Mathieu Bellassène devrait intervenir mercredi 11 mars. Donc voici les deux dates, samedi 7 mars et mercredi 11 mars après-midi. Donc, conférence débat, samedi 7 mars, mercredi 11 mars, 14h-18h, à l'AGK, 177 rue de Charonne, Paris 11e, métro Alexandre Dumas, ligne de métro 2, Nation, Porte Dauphine. Autre info, dimanche 22 mars 2026, à la Parole Errante, à Montreuil, à 14h, entrée prix libre, La Parole Errante, 9 rue François de Bergue, 9300 Montreuil, métro Croix de Chavaux, ligne 9. Dans le cadre du grand week-end de soutien au cinéma voyageur et à Synapse, j'ai marché jusqu'ici, projection, de J'ai marché jusqu'ici, un film collectif. J'ai marché jusqu'ici est issu d'une réalisation collective mise en chantier par Elisa Le Brillant et Johanna Uruzola, association Tard la Nuit, en collaboration avec le laboratoire cinématographique partagé L'Abominable. Cet atelier itinérant s'est déroulé pendant 4 ans avec des adhérents et adhérentes et participants et participantes, des animateurs et animatrices, des groupes d'entraide mutuelle de Saint-Denis, Montreuil et Épinay-sur-Seine, du service d'accompagnement à la vie sociale de Stain et de la trame à Saint-Denis. Commencé en 2020, le film s'est construit un pied après l'autre d'ateliers en séjour, ici et ailleurs. Il dessine chemin faisant un territoire et les contours d'une fabrication commune. Dimanche 22 mars 2026 à 14h, J'ai marché jusqu'ici, à la Parole Errante, 9 rue François de Bergue à Montreuil. Et enfin, un événement qui aura lieu le samedi 28 mars 2026. Regard croisé sur la paire aidance, première rencontre biennale des états généreux de la paire aidance EGPA. Le samedi 28 mars 2026, à la Herry, 57 rue Étienne Marcel, 9300 Montreuil, de 9h30 à 21h30. Autant dire toute une journée. Avec table ronde, atelier, théâtre, forum, performance, discussion, déjeuner, dîner. Plein de choses. Descriptif des interventions, table ronde, père aidance et émancipation. Camille Henri Niard, entendeuse de voix, médiatrice de santé, père en équipe mobile et ingénieur hospitalier au CH Le Vinatier, coordinatrice nationale d'Eden Projet, écoute et dialogue avec les entendeurs de voix, facilitatrice à Eden Lyon. Roxane Mazalon, fondatrice d'AdopteUnPaire.com, dispositif en paire aidance indépendante, s'articulant autour de la formation, du consulting et de l'accompagnement en paire aidance. Emmanuel Urbu, Père aidant partenaire au DAC Loire-Atlantique, auteur de « Consultations » et de « S'apprivoiser », ouvrage plongé dans son processus de rétablissement de ses troubles bipolaires et de son addiction à l'alcool. Sébastien Heim, auteur de « Pulsations de vie » et fondateur de l'association « À fleur de lien » dédiée au partage et au lien humain qui prend sens. Mélanie Jeannaudin, de l'addiction au féminin « Parlons-en ». Sylvie Coulombet, patiente experte, partenaire, addiction certifiée, créatrice et animatrice de programmes de père aidance dédiés aux femmes en souffrance par rapport à des conduites addictives. Comment les valeurs de la père aidance s'expriment concrètement dans un groupe de parole de et pour les femmes? Pour cela, je compte prendre l'exemple, dit Sylvie Coulombet, des groupes entre elles, en un seul mot, que j'ai conçus avec la trame suivante: valeurs partagées entre père aidant ces groupes de parole, horizontalité, pas d'hiérarchie entre les participantes, parole légitime, le vécu comme savoir, l'importance des savoirs expérimentiels, sécurité et confidentialité, empowerment, pouvoir d'agir, bienveillance et non-jugement, solidarité et entraide. Ces valeurs sont essentielles pour des femmes souvent confrontées à la stigmatisation. Savoir expérientiel. Pierre Vandenberg, médiateur santé père EPS Ville-Évrard. Céline Masson, médiatrice santé père pôle de psychiatrie Jonzac. Un atelier pour comprendre ce qu'est et ce que permet la père aidance. Pour replacer l'importance du lien et de la relation dans l'accompagnement au travers de la père aidance. In fine, comment son expérience de la père aidance et la narration de soi peut mener vers un processus de rétablissement. Voilà, donc, pour le programme, et ça continue avec du théâtre forum. Qu'est-ce que tu as dans ton cartable? Les oufs du 67. Pour légitimer le savoir expérientiel, on nous dit souvent « vous avez un vécu mais pas de compétences ». Nous, on répond « si, justement, nos compétences viennent de là, de nos parcours cabossés, de nos rendez-vous médicaux à rallonge, de nos formulaires incompréhensibles, de nos tentatives de rétablissement, de nos stratégies de survie et de nos résistances quotidiennes ». Ici, pas de héros parfaits ni de solutions miracles. Avec le Théâtre Forum, nous cherchons ensemble ce qui marche un peu mieux que la veille. Performance suivie d'une discussion avec le public, avec Natacha Guillet, poète performeuse, dessinatrice et père aidante en santé mentale. La démission. Fin septembre 2023, écrit-elle, j'ai démissionné de mon poste d'artiste et de père aidante sur les hôpitaux. La créativité, la résilience, l'énergie, la passion, l'initiative, l'audace, rien n'y a fait. Nous devons de retranscrire cette trajectoire qui exponentiellement nous stigmatise et nous renvoie consécutivement au peu d'intérêt que la société porte aux personnes différentes, boiteuses, inadaptées au code et au fonctionnement groupal d'improprement existé en trop. Une fresque collective sera proposée aussi, enfin sera réalisée spontanément. Avec Géraldine Frotin. Et voilà. Et donc tout cela, ça se passe au regard croisé sur la père aidance. Première rencontre biennale des états généreux de la père aidance, états généreux de la père aidance, EGPA. Le samedi 28 mars 2026 à la RI, 57 rue Étienne Marcel, 93 100 Montreuil. Et on aura sans doute l'occasion d'inviter des personnes prochainement à l'émission L'Entonnoir qui organise cette journée. Bon. Avons-nous le temps? Oui, on a toujours le temps. Alors, la CAS, Caisse Autonome en Santé et en Soins. Alors, on va écoutez l'épisode 1 de ce collectif breton. Vous allez entendre des témoignages de deux proches qui ont accepté de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le soin? Quel est ton parcours de soin? Est-ce que ça te paraît facile d'aller chez un ou une soignante? Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Et qu'est-ce qui te fait du bien dans la vie? plus un petit extrait des personnes enregistrées sur la même thématique lors des portes ouvertes du Bocal, local queer et féministe de Rennes en 2020. Il y aura de la musique avec Milan Pharma, Meryl, Slex, Fishback, Jean-Yann, Jean-Yann, Fréhel. Et oui. Et donc, on va écouter tout de suite cet épisode 1 du podcast de La Casse.
Depuis que je suis sur la terre, c'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je fais un mauvais sang.
Parce que je peux me présenter brièvement, c'est ça?
Oui.
Malade, complètement malade.
Chez le gynéco, j'y vais une fois par an faire un frottis. C'est pour ne pas mourir. J'ai pas une démarche de mieux-être ou.
Je suis fou.
Je me dis, faut pas que je meure d'un cancer. Ce qui m'empêche pas par ailleurs de fumer un paquet de clopes par jour. Donc je peux pas m'acheter une dent, mais je dépense en clopes. Bon, enfin, bon, bref, voilà. Et puis, qu'est-ce qui me fait du bien dans la vie? Mais quelle question épouvantable. J'y réfléchis pendant 5 ans et je réponds.
Je vis avec pas mal de douleurs depuis très très longtemps. Et donc aussi j'ai l'habitude d'endurer la douleur. Et aussi ça fait que quand j'ai mal quelque part, je me dis ça va, je connais.
J'irai.
Peut-être d'en discuter ou de se retrouver avec des personnes justement pour parler de ces corps qui déraillent parfois.
Qui se désaxe, la poitrine qui se débine. Oh mon Dieu, c'est embêtant d'être toujours pas traqué. Oh mon Dieu, c'est embêtant, je ne suis pas bien.
Bonsoir Pekka. Ce soir, c'est donc une soirée en soutien à une nouvelle caisse de soins. Et cela débute avec ce podcast. C'est la première fois que je m'essaye à la radio. Aussi, soyez indulgents. Je suis sûre que vous saurez l'être. Il y a quelques temps, j'ai eu envie d'interroger mes proches sur leur rapport aux soins. Qu'est-ce que ça veut dire pour elles, le soin? Prendre soin de quelqu'un, de quelqu'une? Recevoir du soin? Quel est leur parcours de soins? Est-ce que ça leur paraît facile d'aller chez un soignant? Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Et qu'est-ce qui leur fait du bien dans la vie? Dans cette émission, vous allez entendre deux de mes proches. J'aurais voulu pouvoir enregistrer bien d'autres potes. Mais le fait est que moi aussi j'avais besoin de prendre soin de moi et d'autres autour de moi. Il y a aussi l'aspect financier pour se déplacer, l'énergie ou le timing qui n'est pas toujours là. Et puis bon, peut-être qu'il y aura des suites à cette émission, qui sait. Pour ma part, des discussions autour du soin, j'en ai depuis longtemps avec des proches. Par exemple avec ma mère, qui ne trouve pas de dentiste, beaucoup de soignants ayant déserté nos campagnes. Ou avec cette amie qui s'est fait larguer par sa psychiatre. Avec mon frère et ses douleurs ophtalmiques, puis son mal de dos. Avec ce pote qui a besoin d'aide pour se déplacer et pour l'administratif, mais qui a le plus grand mal à nous solliciter. Le soin, c'est aussi un travail invisible pour beaucoup d'entre nous. Moi-même, j'ai un rapport aux soins particulier. Cette année, j'ai fait ma deuxième dépression, précédée de troubles alimentaires et de troubles du sommeil. Pour la première fois, j'ai choisi d'aller dans une clinique psychiatrique. Parce que solliciter ses proches, ça a une limite. J'ai aussi le sentiment d'être une personne ressource parfois quand j'en ai l'énergie. Mais tout cela, c'est épuisant, et j'ai souvent le sentiment que notre rapport aux soins est trop peu discuté, notamment dans le monde militant, alors que pourtant dans ma vie, c'est central. Et je pense vraiment pas être la seule dans ce cas-là. Je tenais à signaler qu'il y a des thématiques difficiles à aborder ici, comme la transphobie, l'homophobie, les violences gynécologiques, les violences psychiatriques, menaces de viol, et également la mort de No, une amie décédée il y a peu de temps. Il y a aussi beaucoup de moments de rire ensemble, ça dure environ 1h15. Je vous laisse avec mon ami Dorian qui vous raconte son parcours de soins pour commencer. Bonne écoute.
Quand tout fout le camp, quand tout est décevant, quand rien n'est à sa place, pas même moi. Quand tout me lasse, quand tout est dégueulasse, quand rien ne vaut la peine, pas même moi.
Moi c'est Do, j'habite à Toulouse. En gros, j'ai des amis en Bretagne. Dans la vie, j'ai fait un parcours de transition, je suis psychiatrisé et je fais du soin communautaire aussi, j'anime des ateliers. On est dans un champ on fait des vacances avec les amis après avoir distribué les affaires de nos. Et ça m'arrangeait bien, moi, d'avoir un moment de chill et qu'il soit organisé par d'autres personnes. Parce que j'ai pas forcément la capacité de partir en vacances. Du coup, là, c'était l'idéal. Après les affaires, d'avoir ce moment-là. Moi, Noh, c'est une personne que j'ai rencontrée à Grenoble. C'est une copine qui est morte il y a 6 mois maintenant. Environ. Et c'était une très bonne copine. On a passé beaucoup de temps ensemble à la Malaprise. Et moi j'y habitais, elle y habitait. C'était pas exactement au même moment, mais moi j'y passais vraiment beaucoup. Et voilà, c'était une proche que j'ai gardée après, même quand elle a déménagé à Rennes. Et ça faisait aussi que je pouvais être hébergée ailleurs et la voir, passer du temps avec elle, quel que soit un peu son état et tout. Et voilà. Et du coup là, on se retrouve ensemble parce que en vrai, on l'a perdu ensemble. Et ouais, je l'aimais très fort. Okay. Oui. Mon projet dans la vie, c'est qu'elle habite à Toulouse et qu'on fasse un enfant. Y a des personnes qui étaient au courant, mais voilà.
D'accord. Vous l'auriez appelé Dono.
J'aurais aimé voir ça. Dono qui aurait couru dans les champs. Bon voilà, après c'était un millième point sur la comète parce que elle voulait que je la mette enceinte. Elle voulait que je la féconde et du coup c'est pas trop possible. Et c'était les petites anecdotes sur Noh et moi.
Est-ce que tu avais envie de parler plus de ton parcours de soins, du coup?
Ouais. Moi, du coup, je suis partie de la Grenoblie. J'étais tox, je pense. On peut dire ça, clairement. Et je suis partie un an un peu en vadrouille. Et au bout d'un moment, je voyais que je flanchais, que j'allais toujours aux mêmes endroits. J'étais toujours avec mon sac à dos, mais de passer de ville en ville et coincé entre Grenoble et Toulouse. Du coup, j'ai réemménagé à Toulouse. J'y avais déjà habité avant. Et je me suis dit, parce que ce sera plus simple pour mon parcours de transition, en vrai. C'est vraiment l'argument principal. Et j'ai visité un appart extrêmement confortable au loyer pas cher par rapport à Toulouse. Du coup, c'était compatible avec un RSA. Et des colocs sympas, dont un qui est neurodivergent, en tout cas qui a des bails de psychiatrie comme moi. Et du coup avec qui je pouvais beaucoup partager ça. Mais moi je m'étais pas trop posé la question de avoir un vrai suivi psychiatrique. J'ai commencé à aller voir une psy, je trouvais qu'elle était nulle parce qu'elle me conseillait des trucs que je faisais déjà depuis mon enfance en fait. des trucs d'autocare. Moi j'étais là en mode oui ben non, mais ça va chérie, t'inquiète pas, je suis pas né de la dernière pluie, je sais très bien comment m'occuper de moi quoi. Et j'ai arrêté de me défoncer la gueule. Et c'est vrai que ça allait mieux. Et puis petit à petit, ça, le fait d'être installé, d'être vraiment posé, je pense que ça a libéré un truc. Et un jour j'ai fait une vrillette. Mais ça a monté progressivement et du coup je continue à voir ma psy qui m'avait quand même déjà glissé que fallait que je voie un psychiatre, ce serait bien. J'avais commencé les antidépresseurs avec ma généraliste qui m'avait aussi conseillé de voir un psychiatre. Mais moi c'était pas possible. La seule fois de ma vie où j'avais vu un psychiatre, c'était parce que il voulait m'empêcher d'être Gwyn. Et du coup je chialais à chaque fois que je sortais de des rendez-vous. J'avais 17 ans à peine. Du coup moi les psychiatres c'était dead en fait. C'était vraiment dead. Et puis un jour ma généraliste elle m'a dit ouais, je peux plus te suivre pour ton traitement là d'antidépresseur, je m'y connais pas assez. T'as des trucs trop compliqués, trop compliqués pour elle en tout cas par rapport à ses connaissances et tout. Du coup, j'ai contacté ma psychologue qui m'a orienté vers un psychiatre et qui m'a pas diagnostiqué en vrai. Il a mis un truc sur mon dossier d'AH. C'était un peu la carotte qui m'a fait aller commencer un vrai suivi psychiatrique, on va dire. Parce que je voulais avoir les AH, j'en avais marre de galérer, et en plus je pouvais plus faire les récup, j'avais plus d'énergie.
Est-ce que tu peux juste dire AH, allocation ?
Allocation adulte handicapé. Du coup c'est 900 balles environ, et du coup c'est plus qu'un RSA. Et c'est un dossier qu'on doit faire remplir et c'est validé par la maison départementale des personnes handicapées, un truc comme ça, MDPH. C'était la carotte, la hache, pour aller voir le psychiatre. Mais en vrai, il a commencé à me filer des médocs qui correspondaient beaucoup plus à mes troubles, notamment les TOC. Et du coup, j'ai des antidépresseurs spécialisés sur les TOC. Mais entre-temps, j'ai fait un passage à l'HP et un passage en hôpital de jour aussi. Du coup, j'ai fait deux vrilles. La première vrille, je sais pas pourquoi, je l'ai faite. Je pense, comme je disais précédemment, c'est que j'étais bien, j'étais ancré, je commençais à avoir une vie un peu plus épanouie, du coup... je pouvais relâcher des défenses qu'on fait que j'avais besoin en fait de vriller. Et la deuxième vrille, elle est arrivée pas longtemps après, comme 6 mois après. Mais en gros, la deuxième vrille, elle a été déclenchée par un retour de souvenirs traumatiques d'inceste. Et du coup, j'ai été suivi par un hôpital de jour là-bas qui m'a hyper aidé. Bah du coup, j'ai dû leur faire je les ai aidés aussi, hein. J'aurais fait de la pédagogie complète sur l'accueil des personnes trans. Et à la fin, elle parlait avec des mots on va dire acceptables. Et aussi quand elle me parlait à moi, elle réutilisait mon vocabulaire et ma manière de parler. Elles avaient réussi à intégrer le truc. Elles m'ont envoyé un rapport de suivi où j'ai l'impression que presque elles me remercient aussi pour ce que je leur ai apporté en fait en termes de contenu, de ressources et d'informations, de formation en fait. Voilà. Ouais. Ouais, c'est assez particulier. Elles étaient très gentilles. Et voilà. La période HP, c'était un autre délire. C'était en plein confinement, coronavirus et tout ça. Du coup, j'avais le droit à une visite de 20 minutes par semaine à l'extérieur de là où il y avait ma chambre et tout. Sinon, le reste du temps, j'étais vraiment enfermé dans la structure. j'avais pas le droit de sortir, aucune sortie autorisée. Au début, tout le monde me regardait bizarre parce que j'avais l'air d'une pédale. Je me suis fait quelques amis et les gens, ils venaient voir mes amis en leur demandant « Ouais, est-ce qu'il est pédé ? Est-ce qu'il est pédé ?» et tout. Mais on m'a pas fait chier parce qu'en fait, le salon de coiffure, il était fermé à cause du Covid. Et du coup, je me suis mis à couper les cheveux de tout le monde. Et je me faisais des petits billets un peu. Et du coup, ça m'a payé mon séjour en clinique, quoi. Enfin, parce que c'était pas... Enfin, c'était un HP un peu loin.
C'était pas remboursé, du coup ?
C'était remboursé parce que c'était suivi par mon psychiatre habituel. Mais il y avait des distributeurs de boissons et il y avait une espèce de cantine là où on allait chercher nos produits aussi. Et les clopes, les trucs comme ça. C'est là-bas que je me suis remis à fumer aussi pour sociabiliser.
Ouais, ça aide.
Ouais. Ouais, voilà, je me suis fait des potes avec qui c'était fun. Genre, j'avais un pote, on prenait nos médocs du soir. Et puis ensuite, on résistait à la tentation de dormir, là. Et on allait fumer un joint par-dessus tout ça. Et après, on était foncedés. Et c'est super drôle. Et j'avais ma voisine de chambre, on laissait tout le temps nos portes ouvertes et on était limite en cohabitation là. Et elle perdait toujours sa clé, du coup je lui ai fabriqué un collier pour mettre sa clé autour du cou.
Ah, vous pouvez fermer les portes ?
Non, on pouvait fermer un placard.
Ah oui, c'est ça. Vous ne pouvez même pas faire
ça. Et ouais.
Ouais, c'est bien
quand même. Bah, fallait amener son cadenas avec sa clé. Moi, je l'avais pas fait, j'en avais rien à foutre. De toute façon, j'avais juste mon tel, j'avais toujours sur moi, j'avais rien d'autre de précieux. J'avais des cahiers.
Et vous pouviez aller dans les chambres les uns des autres?
Bah, officiellement, c'était interdit. Mais comme on était juste à côté, en fait, on passait vraiment notre vie ensemble. Genre vraiment, elle était là, elle arrivait dans ma piole, elle me disait « Dorian, j'ai encore perdu mes clés !» Et du coup, je l'aidais, il y avait un endroit où elle rangeait toujours sa clé. Mais à cette époque, je me suis mis à fabriquer des petits bracelets un peu et tout. J'en avais offert un anneau aussi. Ouais, et elle a perdu cette connasse. Ce que je peux dire, c'est comment ça s'est terminé. Ça s'est mal terminé. En fait, il y a un mec qui s'est mis à me harceler aux chiottes parce qu'il voulait que je le suce. Et du coup, je suis allé voir l'infirmier en chef là, et je lui dis bah je me fais harceler aux chiottes et tout. Et il en avait rien à foutre. Et moi j'ai commencé à criser quoi, en mode bah vous savez pas ce qui m'est arrivé dans la vie et tout. J'ai déjà été agressé. Enfin en fait voilà, je me sens en danger quoi. Et il m'a dit il s'est encore foutu de ma gueule. Plus je crisais, plus il rigolait en fait devant ma gueule. Et il m'a dit ouais bah t'as qu'à rester enfermé dans ta chambre. Alors que bah du coup les accès au bâtiment, même s'il était dans un bâtiment différent du mien, et l'accès au bâtiment ils étaient pas du tout surveillés. Et l'accès aux chambres non plus. En fait s'il voulait il aurait pu me suivre l'autre bolos. C'est du coup il y avait pas mon psychiatre qui était là à ce moment-là, qui aurait résolu le truc, je pense. Il était parti pour quelques jours et moi j'ai pété un câble et je suis sorti. Voilà, c'est mon psychiatre. En fait, c'est un psychiatre qui bosse en centre-ville l'après-midi et le matin à la clinique où j'étais. C'est pour ça que je suis allé un peu loin dans une clinique un peu paumée pour être avec lui. Parce que comme ça, il a insisté pour que je garde une chambre seule, sinon on m'aurait mis avec un cum. Et bon, voilà, enfin moi je me serais senti pire en danger, quoi. Et du coup, il a quand même veillé à mon confort, il m'a suivi, je le voyais tous les matins. C'est et du coup quand je suis sorti, je lui ai expliqué. Après je lui ai expliqué tout ça, le truc du harcèlement et tout. Et c'est lui qui a fait le rapport de sortie et c'est notifié dans mon rapport de sortie que suite à du harcèlement de la part d'un autre usager, je suis sorti par contrainte quoi. Enfin j'ai pas eu le choix quoi.
Ouais. OK.
Et comment je suis entré dans l'HP, c'est j'avais dit à mes potes qu'à un moment je leur dirais que s'ils sentaient que c'était l'heure ou que moi je leur dirais voilà, quand vous sentez que vous pouvez plus me tenir là, en fait on appelle les urgences psy. Du coup je suis allé aux urgences psy, là-bas il y avait pas de place de toute façon nulle part, fallait que j'attende. Du coup je suis retourné à la maison, j'ai attendu jusqu'à ce qu'il y ait une place à Beaupuis. Et c'est vrai que mes potes maintenant je suis moins proche d'eux parce que ça s'est pas hyper bien passé. Ils ont appelé, en fait ils se sont montés la tête entre eux, ils ont super paniqué de mon état. Et à un moment je dormais et il était 10h du mat, ils m'ont réveillé, ils m'ont mis la meuf des urgences au téléphone comme ça à la gueule au réveil quoi. Et du coup c'est pas à faire. Voilà, petit conseil pour les personnes soutien, ce n'est pas à faire. Voilà, c'est bien de réveiller la personne, lui faire prendre un café, si elle veut fumer une clope, enfin ce genre de choses, et ensuite lui dire maintenant on appelle les urgences. Parce que moi j'avais donné mon consentement en fait pour y aller quoi, être aller à la clinique. Voilà. Et ce qu'on a fait, c'était juste me filer... Du coup, comment elle s'appelle, la camisole chimique, là le truc qu'on te fait boire ou qu'on te fait prendre en cachet, là
Je connais pas.
Un truc, mais... qui te défonce la gueule et qui te fait super grossir quand tu le prends à long terme, là. J'ai oublié le nom de ce bidule. Mais du coup, c'est la première fois qu'on m'a donné ce truc-là. On me l'a donné à boire. Du coup, j'ai dormi sur ma chaise pendant 2 heures aux urgences. Et après, quand j'étais réveillé, on m'a dit, y a pas de place, rentrez chez vous. Et, en me donnant des comprimés. Et du coup, là, j'avais les infirmières qui passaient et qui voulaient pas que j'aille les comprimés parce que, j'avais émis le fait que, j'avais parlé du fait que je pouvais être un danger pour moi-même. Et du coup il y avait les infirmières qui venaient et qui étaient horribles, elles me faisaient attendre toute la journée, je savais jamais à quelle heure elles arrivaient, fallait que je sois tout le temps dispo, elles voulaient pas me laisser décacher pour genre 2 jours, fallait qu'elles passent tous les jours.
Ça c'était aux urgences ou...
Ça c'était après les urgences, avant Beaupuis.
Ah t'as été quand même...
Avant la clinique, du coup j'ai dû attendre chez moi.
Ah oui c'est ça, chez toi.
Ouais. J'ai dû attendre chez moi.
Ça c'est dur, je trouve. C'est long,
quoi. Ouais, c'est super long l'attente. Franchement, c'est.
Je trouve une fois que t'as décidé d'y aller, en plus, enfin.
Ouais.
T'es motivé, quoi. Et du coup, t'attends ça et des fois, ça peut être 2 semaines ou.
Ouais.
Peut-être plus, j'en sais rien, mais ça c'est le pire, je trouve.
C'est le pire, ouais. C'est le pire. Franchement, c'est. Parce qu'une fois arrivé, moi j'étais soulagé, hein. J'étais plus une charge pour des gens qui étaient pas payés pour ça en fait. Et bon.
Ouais, c'est clair.
Et après quand j'ai fait ma deuxième vrille là, quand j'ai eu mes flashbacks sur l'inceste et tout, j'ai décidé que j'allais pas compter sur mon entourage. Et ou alors mon entourage mais pas de Toulouse. Du coup à petite dose. Et d'en parler que dans ce cadre-là. Et sinon de compter sur mes suivis psychiatriques, psychologues et l'hôpital de jour. Voilà. C'était vraiment une prise en charge matérielle qu'on m'a fait, à laquelle j'ai bénéficié. Pas vraiment le soin, il s'est fait vraiment. Mes bons moments, ils sont avec les autres personnes. Qui était interné aussi.
Ouais.
Je me suis fait 3 amis qui m'ont ultra touché. Et puis aussi les coupes, avec les coupes de cheveux, je rencontrais des personnes et j'ai discuté avec des personnes que j'avais jamais croisées dans ma vie, ce genre de personnes. Et c'était super intéressant. J'ai fait des coupes de poils de nez et de poils d'oreilles et de sourcils. Des vieux qui sont là, qui te regardent. Au début, ils te regardent mal quand ils te voient arriver avec ton petit slim et tes bagues au doigt, là. En mode, c'est quoi cette tafiole? Et puis après, ils viennent te voir en disant, je me sens pas très bien là avec mes cheveux et tout, c'est trop long sur les côtés, tu voudrais pas me faire une petite coupe de cheveux et voilà, et ça les calme. Et du coup, ils sont bien contents qu'il y ait la pédale coiffeuse qui soit là finalement. Ouais. Et du coup, ils sont gentils avec moi, ils me respectent, ils m'apportent des cafés et tout, et même le dealos de l'HP, il m'avait à la bonne aussi.
Ah ouais.
Ouais. Genre un peu le daron quoi, celui qui était dans le bâtiment addicto. Of course.
Ouais.
Et il m'aimait bien et tout, il me payait des cafs, il était trop doux avec moi. Voilà. Après, j'avais dit qu'à 3 personnes que je suis trans. Du coup, je passais pour un PD6. Voilà. Du coup, j'avais quand même ce truc de devoir cacher ça. Ouais. Qui était un peu chiant. Parce que quand on parle de sa vie, c'est bizarre de cacher toute une partie de sa vie. Parce qu'on se raconte beaucoup de choses, quoi, à l'HP.
Et tu voyais quand même des psychologues ou pas trop?
Je voyais mon psychiatre tous les matins.
Pas de psychologue, du coup, ouais.
Non. Non, que mon psychiatre en mode vite fait, vraiment vite fait. Pour un peu un point météo quoi, et je pense lui il était stressé pour moi de que je sois bien traité et tout. J'ai dit qu'il y avait une infirmière qui avait été pas cool, il est allé voir l'infirmière parce que du coup toute l'équipe médicale était au courant que je suis trans et du coup me traitait pas bien en fait. C'est pour ça que l'autre il m'a quand je me faisais harceler là, il a réagi comme ça. C'est parce qu'en fait, il en avait rien à foutre et il était bien content que la travelotte là se dégage quoi.
Elle a tout compté, prends les cachets, mais la femme, je te fais des doigts. Elle va te trouver, va te clouer, mais la femme, je t'ai niqué quoi. J'ai pas ma Billy Fly, pose la suite dans mon paradise. Puis s'enfuit, va sans état d'âme. Prends garde à la fureur pédale.
Après je vais faire une performance dessus.
Ouais.
Mais oui carrément, je pourrais vous passer ce son là de Mylan Farmer. Qui est pas fini. Oui, Mylan Farmer qui est le personnage d'un mélange chimique de Mylan Farmer et de produits pharmaceutiques.
On retrouvera notre ami Dorian un peu plus tard dans l'émission. Pour la suite, j'ai choisi d'interroger Marie. Ça fait quelques années qu'on se voit régulièrement, on a souvent des discussions autour du soin, des discussions du quotidien. Elle a bien voulu répondre à mes quelques questions.
Du coup, je m'appelle Marie, j'ai 40 ans, j'habite à Corbeil-Essonne, dans un appart de 29 mètres carrés avec deux ados. Voilà. Je suis éduque avec des enfants autistes, donc je suis détachée d'un CESAD dans une école ordinaire en fait pour favoriser l'inclusion. Et voilà, je vis seule la plupart du temps avec mes enfants dans ce petit espace. C'est pas toujours simple parce que du coup, je paye malgré tout très cher de loyer, de chauffage, tout ça, et je vis principalement avec mon salaire et les aides versées par la CAF, en fait. c'est tout. Mais du coup, j'ai pas de CMU, j'ai pas de choses comme ça parce que je gagne trop. Mais voilà. Par contre, les deux enfants sont avec la mutuelle de leur père. Donc, ce qui crée des difficultés aussi parce que c'est principalement moi qui les amène chez le médecin. Du coup, j'avance les frais et parfois c'est compliqué d'être remboursé. Il est arrivé que je ne puisse pas avancer les frais, donc que je prenne dans la tirelire des enfants qui se payent tout seul le médecin et d'attendre le remboursement pour remettre dans la tirelire. Donc c'est pathétique, mais c'est le quotidien en banlieue parisienne, quoi. Du coup, il y a cette question de ce que ça peut vouloir dire prendre soin de soi. Ben moi, j'ai beaucoup de mal à répondre à ça, parce que du coup, comme je me sens responsable de mes enfants et à mon travail aussi, j'ai ces trucs-là. Je sais, je pense, j'espère prendre soin des enfants, en tout cas faire au mieux pour qu'ils aillent bien et tout ça. Par contre, quand ça me concerne moi et ma santé, par exemple, je vais toujours... ça passe après tout le reste, quoi, une fois que les choses des enfants sont faites. Et puis... l'accès aux soins, peut-être il est plus facile en région parisienne sur certains niveaux parce qu'il y a plus de praticiens, etc. Mais pour le coup, pour le gynéco par exemple, ça va changer tous les ans. Moi, je vais tous les ans parce qu'il y a des antécédents de cancer dans ma famille aussi et que j'ai pas envie. Enfin, si j'ai ça, j'ai envie que ce soit détecté assez tôt. Mais je vois jamais le même en fait, parce que c'est que par les applications Doctolib, etc. Et du coup, tu prends rendez-vous chez des mecs que tu connais pas, et parfois, enfin, c'est quand même très désagréable parce qu'il y a pas vraiment de suivi. Et je suis tombée sur, par exemple, un gynéco une fois qui m'a pas prévenue avant de me rentrer un spéculum dans le vagin ou des choses comme ça, et c'est hyper agressif. Et en plus, il te donne ton frottis dans un petit sachet, et c'est toi qui te démerdes avec à aller le poster et tout ça, parce qu'ils s'en foutent, quoi. Donc il faut en plus que tu payes le laboratoire, et tout ça, il faut avancer en permanence les frais, et c'est exorbitant quand t'as un loyer, un salaire de 1 300 € et que t'en payes quasiment 600 de loyer, quoi. Donc c'est des vraies questions. Voilà, j'ai dû faire une IRM la semaine dernière. Et enfin, j'ai payé 113 €. Donc même si ça va m'être remboursé, ben en attendant, ça me fout dans la merde parce que je suis à 100 balles près pour finir les mois, quoi. Voilà, mes enfants ont accès aux soins parce que financièrement, j'entends, ils font de l'orthodontie, mais c'est parce que leur père a des gros revenus, en fait. Il est professeur d'université et du coup, c'est lui qui prend en charge cette partie-là, quoi, parce que moi, je pourrais pas. Ce serait pas possible, quoi. Du coup, ça, c'est lui qui paye. Et puis, voilà. Mais j'ai pas de difficulté particulière à aller chez le médecin. J'ai pas non plus de difficulté à aller chez le psy, en fait, parce que j'en ai eu besoin régulièrement depuis mon adolescence. Et du coup, c'est pas quelque chose qui me met en difficulté. En plus, à Corbeil et aux alentours, il y a des associations et tu t'es pris en charge sans payer. Rien du tout. Et du coup, bah, ça favorise quand même l'accès à ces soins-là. Donc voilà, on a fait aussi une thérapie familiale où là, ça m'a plus coûté d'aller m'exposer en tant que mère. J'ai beaucoup plus craint le jugement que quand j'y allais de manière individuelle, quoi. Mais bon, il s'avère que ça a été globalement positif. Voilà. Chez le dentiste, j'y vais pas, pour moi. Parce que c'est trop cher, parce que je nécessite des soins. Il me manque une dent dans le fond. Il m'en manquait deux, mais mes parents m'ont envoyé un chèque pour que je me paye une dent. Et du coup, t'es là, t'as presque 40 ans, un CDI, machin, mais tu peux pas t'acheter une dent, en fait. Enfin, c'est pas comme si je voulais une paire de godasses. Voilà, et c'est aberrant. Du coup, bah, il y en a une, tant pis, j'en remets pas, quoi, puisque ça me coûterait 500 balles et je n'ai pas 500 € à mettre là-dedans.
Là-dedans, dans la dent.
Voilà. Donc, je reste avec mon trou de fond de bouche, quoi. Mais ça va. Et le kiné, j'y vais pas. Je devrais y aller parce que j'ai des problèmes de cervicale, j'ai été opérée et tout ça. Mais ça me dégoûte de me qu'un inconnu en fait me touche quoi. J'ai un rapport au corps qui m'empêche d'aller au bout de certaines démarches de soins, notamment celle-ci, parce que vraiment je ne supporte pas. Je me sens envahie, intrusée, et je sais bien que c'est leur métier et que c'est pas le cas quoi. Mais en fait, ça m'agresse vachement ce genre de truc. Du coup, j'y vais pas, ou alors j'y vais une fois, et puis je louvoie, je dis non, mais y a pas de rendez-vous, je loupe des trucs, enfin voilà. Mais c'est comme quand je suis en thérapie. En général, je dis à mon psy, ben oui, à la semaine prochaine, et je reviens plus jamais, quoi. C'est un fonctionnement de rien finir. Mais le kiné, je peux pas. J'ai trouvé un ostéo qui voulait bien que je reste habillée. Du coup, je l'ai vu quelques fois. Mais sinon, non, je fuis ces trucs-là. Bon, ce qui peut paraître un petit peu ambivalent parce que je vais quand même chez le gynéco, mais pour le coup c'est d'autres problématiques, enfin voilà quoi. Du coup voilà, il y a plein de facteurs qui faciliteraient l'accès aux soins. Alors là, en ce qui me concerne, c'est par exemple arrêter d'avancer les frais en fait, parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué quoi, d'avancer les frais pour être remboursé, on sait jamais quand. Voilà, il y a d'autres choses qui faciliteraient l'accès aux soins pour les plus jeunes, parce que j'ai été éducatrice en protection de l'enfance pendant 7 ans, notamment avec des jeunes qui sont appelés mineurs isolés parce qu'ils sont seuls sur le territoire français et considérés comme mineurs. Et en fait, ces enfants-là, comme ils sont à la CMU, il y a certains spécialistes qui les refusent, même si c'est pas autorisé, qui disent bah non, voilà, cet enfant il est à la CMU, c'est pas la peine de venir. Du coup, enfin là, c'est épouvantable quoi. J'ai même une gamine qui est allée chez le dermato et au moment de lui donner l'ordonnance, il a voulu un règlement, elle a donné la CMU. Il lui a dit non, je garde l'ordonnance. Soit vous revenez avec des sous, soit vous n'aurez jamais l'ordonnance. Donc on frôle, enfin c'est même pas légal quoi. Puis il y a l'accès aux soins psy aussi pour les ados. Donc là, je sans penser trahir la parole de ma fille, je me permets de dire que elle consulte depuis 2 ans, pareil dans une association où elle a pu faire un groupe thérapeutique avec d'autres ados, voilà, pour avec des ateliers d'habileté sociale un peu tout ça, enfin bon, ça s'appelle comme ça, pour être plus à l'aise dans ses interactions, enfin, et c'était super, c'était gratuit aussi, mais il y a peu d'endroits comme ça. Du coup, tous les jeunes n'y ont pas accès, et les jeunes pris en charge au titre de la protection de l'enfance, on peut accéder à ces soins-là. Lorsque c'est arrivé qu'on aille à l'hôpital avec des enfants qui venaient d'ailleurs, par exemple, du Mali, j'ai trouvé que les psychiatres prenaient pas en compte leur parcours et étaient vraiment dans un accompagnement froid et faible. Et voilà, donc aussi, voilà, il manque de moyens à l'hôpital, j'entends, quoi. Mais ça rend les choses super compliquées. Et finalement, plus les gens... Enfin, moins les gens ont de moyens et plus c'est compliqué. Ben voilà, ce sont des gamins qui ont la CMU. Et lorsqu'on allait avec eux choisir des lunettes, évidemment, ils se dirigent vers les lunettes voilà, dans l'entrée du magasin et on leur montrait toujours « Ah non, non, vous, la CMU, là-bas, c'est dans le fond. » Et ils n'ont pas accès aux mêmes choses. Et c'est hyper stigmatisant. Enfin, voilà, toi, t'auras des lunettes un peu merdiques parce que t'es pauvre, quoi. C'est ça que ça veut dire, juste t'es différent. Et du coup, c'est vraiment... c'est honteux, quoi. C'est honteux, cet accompagnement, cette différenciation. Voilà. Donc ça faciliterait l'accès aux soins gratuits pour tous, en dehors voilà, de conditions de revenus ou d'origine ou de strate sociale, quoi. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça.
La CASS, donc le podcast de la CASS... alors la CASS, je rappelle, c'est une caisse autonome de soins et santé localisée en Bretagne. Qui sommes-nous ? On est un collectif de personnes intéressées par les questions de soins et santé. Nous sommes concernés en tant que patients et patientes, notamment en psychiatrie. Notre rôle premier est avant tout de récolter de l'argent pour remplir la caisse de solidarité via des soirées de soutien et des dons et de les redistribuer selon les demandes aux personnes précaires au sens large pour leurs soins en santé en Bretagne. Ces personnes nous contactent via une boîte mail. Les événements de soutien nous permettent aussi d'échanger ensemble sur ces questions. Nous sommes peu nombreux et nombreuses dans le collectif et nous essayons de faire selon nos capacités. C'est aussi pour cela que nous invitons parfois différents intervenants et intervenantes pour tenir des stands d'infos, animer des ateliers ou discussions pendant nos événements. Nous avons organisé plusieurs soirées, mais aussi un CASFest en 2023 avec beaucoup d'ateliers pendant un week-end sur les addictions, l'arrêt du tabac, le validisme, la mémoire traumatique et plein d'autres thèmes grâce à des assos et de super intervenants et intervenantes. Si tu as besoin de bénéficier de notre aide, contacte-nous à l'adresse suivante, lacas@riseup.net. Lacas, L-A-C-A-2-S. Fais-nous donc un petit topo sur le style de soins dont tu as besoin et la somme qu'il te faudrait. Les informations partagées restent entre nous. Nous n'avons pas besoin de justificatifs. La CAS était présente à la Mad Pride 2025 à Brest. Et ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui. Et nous vous disons à la semaine prochaine.
On se sent un peu comme chez soi, avec en plus des tas d'amis, des gens que l'on ne connaît pas et qui parfois tombent dans vos bras. Suffit d'avoir un bon bouquin, supporter la chaleur humaine. En général, ça se passe bien, et s'énerver ne sert à rien. Sous la terre, au milieu des gens, on s'imagine loin des odeurs, plongé dans les pages d'un roman. C'est pas si loin, le firmament. Ah si seulement il se taisait, ses oies collées à mes tympans, ces trois mégères agglutinées qui causent de leur star préférée.
Florent Pignouf, je le kiffe à donf.
Skidiboum téroé, oé, skidiboum téroé, oé. Où vous avez couleur bonnet. Skidiboum téroé, oé, skidiboum téroé, oé. Où vous avez couleur bonnet.
Attentif ensemble. Soyons tous attentifs ensemble. Ensuite d'un voyageur malade, le trafic est très fortement perturbé sur la ligne.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Dans le métro. Et puis l'Asie, et même des fous hallucinés, et des clochards alcoolisés.
Nous, dans le groupe, on boit pas une goutte d'alcool.
Dans le métro. J'aimerais bien connaître tous ces gens
Métro.